France Culture, Avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
Son grand-père et ses oncles étaient paysans. Son père enseignait l'agriculture et fut l'auteur du premier Larousse agricole. Si René Dumont s'est assez logiquement inscrit dans cet héritage familial en étudiant l'agronomie, il s'en est aussi très vite éloigné géographiquement en s'intéressant aux cultures ailleurs et notamment au riz en Asie. Et c'est une connaissance empirique de ce qui constituait encore l'Empire français au Maghreb et surtout en Indochine qui a fait de lui, bien avant son affichage de l'écologie, un sympathisant de la décolonisation, puis un militant tiers-mondiste. René Dumont, agronome et tiers-mondiste, c'est le deuxième volet de cette série, Avoir raison, avec René Dumont, avec deux invités aujourd'hui pour ces deux temps de l'émission. Hubert Cochet est professeur d'agriculture comparée à AgroParisTech et Maxime Zepanski est politiste, historien, et il a travaillé sur le tiers-mondisme. Bonjour Hubert Cochet.
Bonjour.
Vous êtes un des héritiers directs au plan scientifique de René Dumont, puisque vous dirigez aujourd'hui l'UFR d'agriculture comparée d'AgroParisTech, qui est un enseignement d'enseignement supérieur et de recherche qui a incorporé l'ancien Institut national d'agronomie dans lequel René Dumont a été enseignant très longtemps sur cette chaire d'agriculture comparée et dans lequel il a créé précisément ce département que vous dirigez aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence par la situation peut-être de cette discipline, non pas aujourd'hui, ça on va y venir, mais de cette discipline au moment où Dumont décide d'étudier l'agronomie. Comme je le rappelais dans le chapeau de cette émission, il suit en quelque sorte les pas de son père en particulier, mais en faisant le choix de travailler sur d'autres situations que la situation française, même si la situation française l'intéressera tout au long de sa vie. Et précisément, ça l'intéressera parce qu'il s'agira pour lui de comparer. Mais pour comparer, il faut d'abord sans doute faire un pas de côté, aller voir un peu loin. Première expérience en Afrique du Nord, rapide, mais surtout c'est l'Indochine qui va être le terrain privilégié pour lui. Mais avant qu'il parte, c'était quoi en fait l'agronomie pour un jeune de sa génération qui décide d'étudier cette discipline?
Alors, c'est pas très facile de dire ce qu'était l'agronomie à cette époque. Mais disons que l'enseignement de l'agronomie en France et aussi partout dans le monde était, on va dire, inspiré, dominé par d'abord une approche exclusivement technique de l'agriculture, ce sur quoi reviendra évidemment René Dumont, et ensuite une approche qui considérait que globalement les paysans en France et sur la planète n'étaient pas, on va dire, les bons moteurs ou les bons supports de la modernisation que l'on espérait de l'agriculture, et qu'il fallait donc à grand renfort de conseils techniques, à grand renfort d'investissements, transformer complètement ces agricultures, que ce soit en France ou dans le monde. Donc c'était un petit peu une vision descendante, que je qualifierais aussi de techniciste. Ces deux notions, hein, à la fois savoir descendant de l'agronome vers le paysan et vision très techniciste, sont précisément celle que Dumont remettra en cause dès le début de sa carrière.
On peut dire au fond, à cette époque-là, c'est l'agriculture est censée tirer les leçons de la révolution industrielle. Alors pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait deux secteurs différents, l'industrie, l'agriculture. Et là, on est dans un moment où l'industrie va se mettre au service encore davantage de l'agriculture.
Alors oui, on peut dire cela. Et effectivement, dès lors que cette approche était privilégiée, étudier les pratiques traditionnelles en France ou dans d'autres régions du monde, étudier comment les agriculteurs se débrouillaient pour produire, pour nourrir leur famille, tout cela n'avait aucun intérêt puisqu'il s'agissait de balayer tout cela d'un revers de main pour installer les conditions d'une production moderne.
Finalement, René Dumont va être dans une démarche qui ressemble un peu à celle des anthropologues ou des ethnologues, qui consiste à aller d'abord observer sur le terrain comment font les gens.
Alors, tout à fait, et je vais peut-être vous raconter une anecdote à ce sujet. La première mission à l'étranger de René Dumont, c'est 1929, on l'envoie au Tonkin, donc l'actuel delta du fleuve Rouge, au Vietnam, Indochine de l'époque, avec comme mission, pour simplifier, d'apprendre aux Vietnamiens la culture du riz. Et il en revient 3 ans plus tard en déclarant « c'est les Vietnamiens qui m'ont appris la culture du riz ». Alors, derrière, c'est-à-dire qu'il valide, après 3 ans d'études très minutieuses, il valide globalement les techniques des paysans indochinois et s'appuie sur cette compréhension très très fine pour faire des propositions très modestes d'amélioration. Donc, il y a déjà dans cette première expérience de longue durée dans un pays de notre ancien empire colonial, un renversement complet de perspective où ce sont les pratiques paysannes qui deviennent l'objet d'études privilégiées. Et l'idée qu'on ne peut prétendre améliorer la situation de ces paysans et accroître la production que en s'appuyant sur une connaissance extrêmement fine de ces pratiques. Et ça, effectivement, dans le contexte colonial de l'époque, c'était une véritable révolution copernicienne.
Il était un peu seul à procéder ainsi dans la discipline. J'imagine qu'à la même époque, d'autres agronomes étaient ailleurs, envoyés sur d'autres territoires.
On peut dire qu'à l'époque coloniale, il a été le précurseur. Et personnellement, je n'en identifie qu'un autre qui avait un peu la même démarche, c'est Philippe de Schlippé, dans le contexte, donc agronome belge, qui développait un peu la même approche à la même époque dans l'empire colonial belge, notamment au Congo belge.
Donc René Dumont, après ce séjour, long séjour en Indochine, va revenir à Paris, va faire le choix d'être enseignant dans cet Institut National d'Agronomie et au fond il va un peu systématiser ce que ce premier terrain lui a donné l'occasion de voir.
Alors il va d'abord multiplier les terrains et faire effectivement de nouvelles études très approfondies dans différentes régions du monde, on y reviendra. Et il va créer la chaire d'agriculture comparée en 1951 à l'Institut agronomique de Paris, donc rue Claude Bernard. Alors, au XIXe siècle, une chaire d'agriculture comparée avait déjà été créée par Eugène Riesler, qui était géologue d'ailleurs, et qui s'intéressait à l'époque aux relations entre les types d'agriculture qui avaient été mises en place par les agriculteurs dans le monde et le substrat pédologique et géologique et les sols. Bon. Mais tout ça était tombé dans l'oubli et René Dumont a recréé l'agriculture comparée en créant une chaire d'agriculture comparée en 1951. Et la première conséquence de cette nouvelle approche de l'agriculture a été d'une façon très très concrète la suivante. Quand René Dumont enseigne à l'Institut agronomique et aussi à l'École supérieure d'application d'agronomie tropicale à Nogent-sur-Marne, il enseignait dans les deux institutions.
Dans ce qui s'appelle aujourd'hui le jardin René Dumont d'ailleurs.
Absolument, jardin tropical.
Et dans lequel, parce que je ne l'ai pas dit hier, vous pouvez actuellement aller voir une exposition consacrée à René Dumont dans ce jardin qui est présenté pour quelques mois encore.
Absolument. Et donc René Dumont est à ce moment-là invité à enseigner ce qu'on appelait les cultures spéciales. Donc grand 1, la culture du café, grand 2, la culture du cacao, grand 3, la culture du cotonnier, grand 4, etc. etc. Bref, les cultures de nos colonies dont la métropole avait besoin. Et René Dumont balaye ça d'un revers de main et met en place un cours d'agriculture comparée qui avait pour objectif de comparer différentes agricultures du monde avec une méthodologie qui sera la sienne et qui a ensuite d'ailleurs qui a connu des développements importants. Mais là aussi, c'est vraiment, je dirais, une révolution dans l'enseignement de l'agronomie, notamment dans les pays de nos anciennes colonies, mais pas que, puisqu'il mettra en œuvre cette nouvelle approche de l'agriculture, évidemment, dans un pays comme la France.
Donc il a un œil encore sur l'agriculture française. On est en 1953 et René Dumont parle de la production agricole.
Eh bien, notre paysannerie est trop nombreuse parce qu'elle n'a pas une capacité de production suffisante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas reçu une instruction suffisante, parce qu'elle n'a pas été dotée d'un équipement suffisant. Nous avons cru vers 1880, avec Méline, pouvoir nous soustraire aux lois de la concurrence internationale et à l'abri d'un protectionnisme, nous avons gardé une paysannerie qui n'a pas été suffisamment dotée de moyens de production. Actuellement, son prix de revient est trop élevé, alors elle ne peut pas exporter, alors elle ne trouve en face d'elle que le marché intérieur. Ce marché intérieur lui-même est soumis au développement de l'activité industrielle. Comme actuellement ce développement se ralentit, une partie de masse de salaire est réduite et les achats de biens alimentaires, spécialement les achats d'aliments riches, les achats de viande, de lait, de produits laitiers, se réduisent. Et immédiatement, trop de production, insuffisance de consommation, d'où effondrement des cours. L'agriculteur qui a travaillé plus, qui a produit plus, se voit récompensé de ce surcroît de travail par une insuffisance de recettes, par une diminution de ses recettes.
On comprend mieux en entendant René Dumont, en 1953 parler de la sorte avec ce lexique. Pourquoi cet UFR d'agriculture comparée que vous dirigez aujourd'hui, Hubert Cochet, fait partie du département des sciences économiques et sociales? Au fond, il y a une attention portée à l'économie, à la socio-économie très très grande.
Alors c'est un peu la deuxième, on va dire, révolution dans la conception que René Dumont avait de l'étude de l'agriculture et en conséquence donc de l'enseignement de l'agronomie. La première, je l'ai citée, c'est de partir des pratiques paysannes et d'accorder la plus grande attention à leur étude très très minutieuse. La deuxième, c'était de ne jamais séparer l'étude des pratiques et l'étude des techniques agricoles du contexte économique, social et politique dans lequel les agriculteurs travaillaient, vivaient, et tentaient d'accroître leurs revenus ou tout simplement de nourrir leur famille. Et donc, c'est une approche, et je vais tout de suite répondre à votre question, c'est une approche qui donc intègre les sciences sociales, mais qui va au-delà d'une simple approche pluridisciplinaire, puisque je pense qu'à partir de René Dumont, a été construite une approche que je qualifierais plutôt de transdisciplinaire, autour d'un objet, les transformations de l'agriculture, approche qui mobilise tant les concepts de l'agronomie que ceux de l'économie, de la sociologie, des sciences politiques, parfois de l'anthropologie, autour d'un objet qui est les transformations de l'agriculture et l'impact possible des politiques sur ces transformations.
Donc une approche globale qui s'appuie sur des compétences en biologie, en agronomie, mais aussi des compétences en sciences humaines et sociales. De ce point de vue-là, Dumont est une nouvelle fois assez seul ou il arrive peu à peu à construire autour de lui un réseau de chercheurs?
Alors, je vais répondre oui et non à la question. C'est-à-dire, à la fois, il a réussi à construire cette chaire d'agriculture comparée dans l'école d'agronomie la plus prestigieuse de France. Il a réussi à la faire vivre, elle existe encore actuellement, on pourra en reparler. Donc bien sûr, il y a un petit réseau assez solide qui se constitue autour de cette approche fondée par René Dumont. Mais évidemment, elle reste très minoritaire au sein d'un enseignement agricole et agronomique qui, à l'époque, reste quand même très largement dominé par des approches purement techniques. Et, René Dumont, à lui seul, n'a pas réussi à révolutionner l'agronomie coloniale de l'époque. Hein.
Alors vous avez bénéficié de certains de ces enseignements, parce que quand vous y étiez étudiant, il lui arrivait encore, même s'il était à la retraite, d'intervenir.
Alors, très ponctuellement, hein, parce que donc moi j'étais étudiant dans les années 80, début des années 80, René Dumont était déjà à la retraite depuis une quinzaine d'années, il s'était lancé en politique, mais effectivement on l'invitait parfois, il venait encore faire des conférences, alors non pas sur tout ce que je viens de raconter, mais en général soit sur son dernier voyage, hein, qu'il racontait avec force détail et d'une façon absolument passionnante, il intervenait sur les approches qu'il a privilégiées à partir des années 80, qui étaient éminemment politiques, et sur son engagement de citoyen, notamment tiers-mondiste, on dirait altermondialiste aujourd'hui, pour le développement agricole et l'amélioration des conditions de vie des paysans du Sud, notamment.
On va revenir avec Maxime Zepanski sur cette dimension tiers-mondiste du parcours de René Dumont, mais avant ça, quand même, Hubert Cochet, un mot de l'écologie de René Dumont, dont on commencera plus directement à parler demain avec Christophe Bonneuil et Catherine Larère. Un mot quand même, parce que pour vous, la vie de René Dumont, c'est pas la vie d'un agronome productiviste qui tout d'un coup se réveille dans les années 70 et se découvre écologiste.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que René Dumont, lorsqu'il travaillait au service du commissariat au plan au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en France, peut être qualifié de productiviste, mais attention, dans un contexte où la France avait faim, dans un contexte où partout dans le monde, des cohortes de paysans n'arrivaient pas à se nourrir, donc il s'agissait évidemment en premier de lutter contre la faim et d'accroître la production. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à opposer le Dumont agronome productiviste à un Dumont qui se serait converti à l'écologie dans les années 70. Je ne partage pas cette idée. Pourquoi ? Parce que dans son approche de l'agriculture, dès son expérience en Indochine au début des années 30, on retrouve dans son approche tous les ingrédients de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agroécologie. D'abord, l'importance accordée au local, à la complexité des situations locales. L'importance accordée aux savoirs locaux. L'importance accordée à la complexité des processus productifs. Il insistait beaucoup sur les associations de culture, sur la combinaison de l'élevage et de l'agriculture. Et puis enfin, il insistait énormément sur la nécessaire économie des ressources, sur le fait d'utiliser avec parcimonie et à bon escient les ressources disponibles, notamment l'eau et les énergies fossiles. Et dans tout cela, en fait, on retrouve le socle, véritablement, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'agroécologie. Et tout ça, bien avant que ce mot ne soit à la mode, et bien avant que René Dumont se lance dans une carrière politique au service de l'écologie politique.
Alors, ce parcours marqué par l'agroécologie est aussi marqué, vous l'avez rappelé, et c'est vraiment fondamental, je pense, pour comprendre René Dumont, par le temps passé sur des terrains multiples qui permettent cette comparaison en Asie, mais aussi en Afrique, dont il va visiter la quasi-totalité des pays dans les années 50, au point d'écrire, juste après la décolonisation, un livre qui va faire beaucoup de bruit. En fait, l'Afrique noire est mal partagée. René Dumont s'explique de ce titre au moment où, un an après la parution, on est en 1963.
France Culture, avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
Oui, le titre peut être jugé pessimiste, mais à mon avis, la situation de l'Afrique n'est pas dramatique. L'Afrique a, comme vous venez de le dire, reçu l'indépendance politique. Mais ce n'est pas l'indépendance totale qui ne peut être qu'une indépendance économique. Pour atteindre cette indépendance économique, il faut le développement, il faut l'accroissement des richesses, l'accroissement de la production agricole et de la production industrielle, les deux devant être menés de front. Or, actuellement, ce que j'ai voulu souligner dans le titre de mon livre, c'est que ce développement ne s'engage pas à une vitesse suffisante, notamment pour confronter l'explosion démographique, qui atteint souvent 3% par an, et par conséquent que nous sommes engagés en Afrique noire dans certaines ornières au départ du développement, et qu'il faudrait sortir de ces ornières. Voilà ce que j'ai voulu souligner, mais naturellement que l'Afrique n'est pas compromise, elle a juste pris le départ, j'ai signalé qu'il n'est pas très bon, mais on peut rectifier, et c'est justement pour que l'on puisse rectifier que j'ai proposé ce titre.
Ce titre, l'Afrique noire est mal partie, dit tout au fond du rapport de René Dumont à ces pays qui viennent d'accéder à l'indépendance. Il dit tout du rapport au tiers-mondisme aussi, Maxime Zepanski, qui est à la fois une position tiers-mondiste et en même temps une position qui ne peut être que critique. Et là, on retrouve de toute façon un trait d'esprit, de caractère de René Dumont, Maxime Zepanski.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, René Dumont a été dès la fin des années 70 et le début des années 80 associé à ce qu'on a appelé le mouvement, la crise du mouvement tiers-mondiste. Alors, sans vouloir complexifier inutilement une histoire qui est déjà passablement, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on appelle tiers-mondisme, en fait, n'est pas véritablement un courant idéologique structuré, ne relève pas de mouvements qui se revendiquent comme tel, mais est plutôt à la fois ce partage entre un air du temps, finalement, une forme de nébuleuse qui va se caractériser par un noyau commun, finalement, qui est celui d'un regard empathique et bienveillant, premièrement, un regard occidental, deuxièmement, qui va être jeté sur des peuples, des pays, pour la plupart anciennement colonisés ou en développement. Et ces peuples, ces pays, sont perçus comme partageant une forme de communauté de destin, en fait. Hein. Voilà. Alors, derrière cette définition volontairement très très vague, on va trouver énormément d'auteurs, hein, parce que ce sont principalement des hommes. Donc, bien sûr, René Dumont, et là, vous avez insisté, Hubert Cochet a insisté sur l'importance, en fait, du terrain pour René Dumont. J'y reviendrai en deux mots après, parce que c'est aussi une forme de légitimité dont il va pouvoir se prévaloir dans les discussions et les polémiques qui vont suivre. Et en fait, ce qu'on constate avec le mouvement tiers-mondisme, avec les tiers-mondismes, hein, je préfère en parler au pluriel, c'est qu'ils sont pluriels. Et vous allez avoir tout un courant en fait qui va voir dans les pays du tiers-monde finalement une figure quasiment révolutionnaire ou christique du point de vue des chrétiens. Finalement, le sujet révolutionnaire ne se trouve plus en Occident dans les années 60 ou 70. Le sujet révolutionnaire, on va le trouver du côté du Vietnam, du côté du peuple palestinien, du côté du Mozambique ou d'Amérique latine, vous voyez, du côté du Chili. Et donc, il y a une forme de projection qui a pu être critiquée comme une forme de projection romantique qu'on va trouver notamment chez des auteurs ou des intellectuels comme Régis Debray ou comme Gérard Chalian, qui sont des personnes qui peuvent se revendiquer en plus d'une certaine forme d'expérience même de terrain, puisqu'ils ont pris les armes en fait aux côtés l'un d'Amilcar Cabral pour Chalian ou d'Ernesto Che Guevara pour Régis Debray. Donc vous voyez, il y a déjà cette première forme en fait de projection en fait. Et à côté de ça, on va trouver une forme des formes d'intérêt pour le tiers-monde qui vont être à la fois plus théoriques, plus scientifiques aussi, ce qui n'est pas forcément à découpler d'une forme d'investissement sur le terrain, et Dumont, René Dumont en témoigne par son expérience pratique, en fait, où, ce qui va être étudié avec attention et très rapidement, c'est les difficultés auxquelles vont être confrontés ce vaste en fait ensemble qu'on appelle tiers-monde, même si très souvent les auteurs, quels qu'ils soient, mettent quand même beaucoup de guillemets sur l'homogénéité supposée de cet ensemble politique. Et donc en fait, c'est avec ça qu'on va avoir émergé tout un ensemble de théories. Là, par exemple, la théorie de l'échange inégal, qui a été notamment travaillé par des économistes comme Raoul Prebisch ou Anziger, et une autre théorie, par exemple celle du pillage du tiers-monde, qui est le titre d'un ouvrage de journaliste économiste Pierre Jallet, qui a été publié en 1965. Et vous voyez, en fait, c'est ici, me semble-t-il, en tout cas, dans ce tiers-mondisme à la fois plus scientifique, qui est dénué de romantisme, en fait. Quoi que pour Dumont, même s'il a pu être un petit peu... exprimer parfois une forme de romantisme à l'égard de la Chine, mais avec des limites malgré tout. Donc c'est un tiers-mondisme plus ancré à gauche, sans illusion vis-à-vis du RSS et du bloc socialiste, mais surtout qui est extrêmement critique vis-à-vis de l'impérialisme, de ce qui est caractérisé comme l'impérialisme américain. Et c'est au sein de ce deuxième pôle, vous voyez, où on n'a pas forcément cette dimension romantique, qui est à l'écart malgré tout du marxisme, même s'il peut se revendiquer du socialisme, que René Dumont va développer à la fois son œuvre et ses engagements politiques, en fait, me semble-t-il, à côté de l'écologie vis-à-vis du tiers-monde.
Hubert Cochet, c'est sûr que c'est pas René Dumont qui allait prendre les armes, tant il détestait les armes. C'est pas du tout, effectivement, le même type d'engagement qu'un Régis Debray que citait Maxime Zepensky.
Oui, alors peut-être dans, effectivement, son engagement tiers-mondiste, moi je voudrais peut-être rappeler que dans ce mouvement tiers-mondiste, il y a d'abord la notion de non-alignement. Par rapport, on est dans un contexte de guerre froide où il y avait évidemment le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Et tiers-monde, c'était d'abord en référence au tiers-État. Et si Dumont a évidemment été proche de cette mouvance tiers-mondiste très diverse, cela vient d'être souligné, il a d'abord été très critique par rapport au gouvernement et au mouvement de développement agricole, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Et le fondement de cette critique, et qui, quelque part, explique un peu son non-alignement et son engagement dans le mouvement tiers-mondiste, c'était que ce soit les ingénieurs agronomes de l'Ouest, entre guillemets, ou de l'Empire communiste, et de l'ancienne Union soviétique, si on peut dire, ces agronomes avaient en commun le fait de mépriser royalement les paysanneries, et de considérer que seules des exploitations de grande taille, largement industrialisées, fonctionnant sur le salariat, quelle que soit la forme de salariat d'ailleurs, pouvaient conduire à un véritable développement agricole. Et donc Dumont balaye là aussi ses théories, qu'elles soient à l'Est ou à l'Ouest, développe des approches critiques, tout en s'inspirant de choses qui étaient intéressantes des deux côtés. Dumont n'était pas un idéologue. Et je pense qu'il a toujours, grâce à son ancrage sur le terrain, pu maintenir une distance par rapport à ses grands courants de pensée. Et c'est, je crois, là aussi, ce qui lui a permis d'être particulièrement lucide, d'une part, sur les rapports Nord-Sud, mais aussi sur les relations de domination qui existaient au sein de chaque pays entre les élites gouvernantes et la paysannerie. Et puis d'autre part, ça lui a permis d'être, je crois, très lucide et avant les autres sur les dérives, notamment du productivisme, qu'il soit développé dans les pays de l'Ouest ou dans le bloc de l'Est.
Ces positions politiques de René Dumont lui ont valu un certain nombre de critiques publiques, Maxime Zepensky, à la fois du côté d'une génération de, avec beaucoup de guillemets, nouveaux philosophes, ou du côté de certaines ONG, en fait.
Alors, bah, tout à fait. Et ça, on en termes. Alors, j'abonde tout à fait avec les propos développés par Hubert Cochet. Hein. C'est vrai que je rejoins tout à fait sur les différents points qu'il a pu aborder. Alors, en fait, la critique vis-à-vis de René Dumont et des tiers-mondismes, en fait, auxquels il a été associé, elle va se développer à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, à travers, en fait, pour dire une triple bascule. Alors, la première bascule, c'est que, bon, ben, les années 70 sont celles, au début des années 70, sont celles de l'explosion, finalement, d'un certain nombre de mouvements d'extrême gauche, mais finalement, plus sous la forme d'un feu de paille, puisque très rapidement, finalement, le référent marxiste, qu'il soit scientifique ou politique, va se trouver très rapidement délégitimé. Donc avec la publication de l'archipel du Goulag, mais en fait avec un certain nombre de critiques que l'on voit notamment dans ces pays comme le Vietnam, par exemple, on se rend compte finalement qu'il a certes gagné la guerre, mais au profil de la mise en place d'un mouvement, d'un pays en fait finalement qui s'approche de la dictature. Donc cette délégitimation, même si évidemment Dumont n'a jamais été marxiste, hein, il a pu, par effet de halo, y être associé, même à son corps défendant. Deuxième bascule, c'est que le concept de tiers-monde lui-même entre en crise. Il entre en crise scientifique, puisqu'en fait, on va vraiment insister sur l'hétérogénéité vraiment de ces différents pays. Il entre en crise politique, puisque Hubert Cochet mentionnait le non-alignement, mais tout ce qu'on va appeler le tiers-mondisme institutionnel, hein, la tricontinentale, le panarabisme, le panafricanisme, etc. Là aussi, ça n'a pas eu de portée, ça n'a pas eu de... Les fruits politiques, en fait, n'ont rien donné. Et le tiers-monde entre dans une troisième crise, il pourrait y en avoir d'autres, en tout cas une crise économique, puisque c'est le moment de la crise de la dette. Et face à cette crise de la dette, alors certes, il y a une responsabilité des pays du Nord qui peut être imputée, mais néanmoins, face à ça, les guerres civiles, la crise de la dette, en fait, on fait. Mais finalement, est-ce que l'Occident finalement, est-il responsable de tout? Et c'est ça, en fait, qui va aussi provoquer la critique, puisque René Dumont, en fait, portait un discours qui était très fort et qui, en fait, qui est une constante dans toutes ses œuvres. Je suis allé voir, eh bien, en fait, là, je vous cite juste le titre du chapitre 2 de l'Utopie ou la mort, c'est « Les riches des pays riches sont les responsables ».
Merci, Maxime Zepensky. On en reste là pour aujourd'hui, mais on retrouve René Dumont demain avec la question de l'écologie, pas encore politique. C'était Avoir raison avec René Dumont. Préparation de l'émission, Marie Dalquier, Juliette Mouelic, à la technique aujourd'hui d'Ali Yaha, à la réalisation Olivier Béta. Demain, René Dumont, de l'utopie à l'écologie, ce sera avec Christophe Bonneuil et Catherine Larère.